Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de deux autres podcasts, Histoire de Succès où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes et Histoire de Mec où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois Philippe qu'on va appeler Yao pour une raison qu'il explique dans notre discussion, je vous en dis pas plus. Yao nous raconte la naissance de ses deux fistons et les difficultés qu'il a depuis quelques années, voire même sa naissance, à connecter avec son fils aîné, malgré toute sa bonne volonté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Yao essaie pourtant très fort. Il a par exemple appris à nager et à faire du vélo pour pouvoir transmettre à ses deux enfants ce que son père n'a jamais pu lui apprendre. Et pourtant, il tire aujourd'hui dans notre discussion un constat d'échec. Ça a l'air d'être très très compliqué pour lui de créer une relation avec son plus grand fils, alors que ça se passe à merveille avec son deuxième. C'est si compliqué à gérer pour lui émotionnellement qu'il en vient même parfois à regretter d'avoir fait des enfants. Un grand merci à Yao pour sa transparence, cette discussion était particulièrement intense. J'espère qu'elle vous touchera autant qu'elle m'a touché. Un grand merci d'avance pour votre écoute et je vous laisse en compagnie de Yao. En fait, tu te fais appeler comment, Yao?
Philippe ou Yao, mais Yao, inconsciemment, lui, c'est... j'ai entendu la psychose à deux balles, mais c'est...
Vas-y.
C'est mon père, je l'ai pas connu. C'est mon deuxième prénom, donc c'est un prénom africain, donc ça vient de mon père, et c'est un peu le seul lien que j'ai avec lui, donc je me suis dit, je vais le porter pour avoir le seul lien vis-à-vis de mon père, en fait. Mais après, tu peux m'appeler Yao, Philippe, mais Yao, c'est au boulot, et c'est aussi mon pseudo en tant que dessinateur.
C'est ton pseudo
sur... Enfin, un pseudo, mais c'est un vrai prénom. Quoi.
C'est ton prénom pseudo.
Donc...
Je vais t'appeler Yao, alors
très
dis-moi si tu veux, je t'appelle Yao, parce que moi, tu m'as écrit en tant que Yao.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Enchanté en tout cas, merci de venir.
Merci pour l'invitation.
Tu m'as dit que tu avais découvert le podcast par l'intermédiaire de Ben Mazuet.
C'est ça. Et en fait, comme je te disais, je regarde un bon moment l'émission de Cannes que je lundi qui passe sur... Donc YouTube et MyCanal aussi. Donc je crois que c'était dans saison 1, il était invité à Grand Corps Malade, et donc je connaissais pas du tout, et j'ai bien aimé tout son parcours, enfin ses questionnements aussi par rapport à ses doutes, et en tant qu'être humain et artiste. Donc du coup ça m'a touché, et du coup j'ai été aussi écouter un peu de ce qu'il faisait, donc ça m'a plu. Et de fil en aiguille, après les suggestions YouTube, ils m'ont emmené vers ton ancien site, si je dis pas de bêtises,
ouais, Mademoiselle.
Donc j'ai vu qu'il était en interview.
Il y avait une longue interview de lui où il raconte
son
histoire.
C'était fascinant. Et après, encore une fois, Reco, podcast, Histoire de Daron. Je suis, un podcast sur les pères. Donc c'était, je me suis dit, ça manque. Et c'est vrai que j'en ai jamais entendu. Enfin, à titre perso. Donc du coup, après, j'ai écouté. Donc il est venu deux fois. Enfin, la première fois, c'était avant le divorce et après le divorce. Donc voilà, donc j'ai écouté les deux. Donc c'est comme ça que j'ai connu Histoire de Daron, okay. Et de fil en aiguille, après j'ai écouté d'autres invités, enfin quelques-uns. Quoi.
Et bah bienvenue en tout cas, ça fait plaisir
encore.
Tu m'as envoyé un mail très marrant, où tu... Alors j'ai plus le titre en tête, mais je vais le retrouver là tout de suite. Un daron banal, avec un ado, entre guillemets, de 8 ans, presque 9, et un psychopathe de 3 ans. Deux animaux sauvages.
Ouais. C'est un peu ça.
Bah tu m'avais vendu, tu vois, moi
t'es là, bah, okay. J'y croyais pas, mais
Yao, viens donc raconter ta vie. Donc t'es dans la vie, t'es dessinateur, c'est
ça? Je suis graphiste à la base, donc dans les éditions Delcourt, donc je bosse sur du manga, comics et BD franco-belge aussi. À côté, je dessine aussi.
D'accord.
Après, c'est un gros mot de dire, je suis pas illustrateur pro, je dessine vraiment pour moi, et puis je monte des projets à côté. Je suis dans une asso aussi de dessin, donc depuis une vingtaine d'années, donc on sort des fanzines, on fait des conventions, tout ça, tout ça. Puis oui, ça m'arrive de faire du boulot en free en tant qu'illustrateur, mais voilà. Enfin, à la base, je suis vraiment, je suis de la génération Klebdo, donc, tu sais, j'ai grandi, j'ai 40 ans.
Ok.
Voilà. Et, je suis vivant.
T'es en plein dedans.
C'est ça. Et, je fais ma crise de la quarantaine, on va dire. Donc voilà, j'ai grandi dans les dessins animés, tout ça, donc ça m'a donné l'envie de dessiner depuis que je suis tout petit, je fais à peu près ce que je voulais dessiner en fait, donc du coup je raconte un peu ma vie, mais j'ai passé un concours au Gobelin, donc pour ceux qui connaissent, pour faire de l'animation, donc là j'étais un peu bizarrement sûr de moi, ce qui m'arrive pas très souvent. Donc là, j'étais vraiment gonflé, alors je vais réussir. C'est, non, en fait, j'ai pas réussi parce que c'était vraiment un gros challenge, gros niveau. Donc ça m'a mis une petite claque. Voilà, donc du coup, j'ai bifurqué vers le graphisme, en fait. Donc du coup, plus traditionnel, plus que ben, mise en page, création de bouquins, affiches, tout ça.
D'accord.
Donc suite à ça, je suis rentré chez les éditions du coup maintenant depuis une quinzaine d'années, ouais, maintenant je fais ça. Donc, ouais.
Et je renverrai les gens vers ton Insta, parce que t'as un Insta où tu ouais, dessines, où tu fais des dessins, et puis tu m'as aussi envoyé, mais on en parlera peut-être un peu après, toute une série de dessins que t'avais fait pendant le premier confinement.
Ouais, c'était catharsis, c'était, voilà, c'était mon seul but un peu de m'en sortir, pour pas péter les plombs.
Ouais. On le sent, la catharsis, vraiment...
Ouais. Voilà.
C'est très violent.
C'était un peu mon échappatoire.
Mais on va en reparler. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu me racontes un peu comment t'es devenu papa.
Alors, bonne question. Parce qu'à la base, c'était quelque chose que j'envisageais même pas.
Okay.
Enfin, à la base, j'envisageais même pas d'être en couple, pour te dire, tu vois. Donc, j'ai rencontré ma copine en 2006 maintenant. De base, je vais même pas la. Enfin, c'était à la soirée d'un pote pour Nouvel An, je crois, et je voulais pas y aller, ça me saoulait, donc on m'a forcé à y aller. Bon, heureusement, j'en suis là maintenant. Et donc, du coup, j'ai rencontré là-bas, puis voilà, comme tout couple, quand on s'est mis ensemble, ça collait bien entre nous, et après, elle m'a évoqué l'idée de j'aimerais bien avoir des enfants. Donc, après, je me suis dit, j'ai commencé à dire, merde, parce que j'étais pas forcément dans ce mood, tu vois, j'étais. Pour plusieurs choses, mais d'une parce que j'ai pas confiance en moi, je me suis dit que j'avais pas envie d'avoir un enfant, me sentant pas à l'aise avec moi, mon propre corps et dans mon domaine professionnel, en fait, tout okay. ça.
T'avais pas, t'étais pas, tu non, disais, pas c'est prêt. Pas le moment,
c'est je pas le pas, moment, je me disais même, j'ai des tarfis que j'ai pas envie qu'il ait, enfin, ce genre de trucs, tu vois, vraiment,
des tarfis.
Ouais. Enfin, des trucs, enfin voilà, que je vois, je me dis, j'ai pas envie qu'il y ait les mêmes, donc ce genre de trucs.
C'est quoi tes tares physiques?
Je trouve que.
On est là pour parler de toi. Hein,
donc, voilà.
Tu te trouves pas beau?
Voilà.
Oh là là.
Donc, voilà. Et donc voilà, tout ça, et après, ça a germé, je me suis dit, j'ai pas connu mon père. En fait, c'était surtout ça, vu que moi. Mon père, il est mort, j'avais 2 ans, donc j'ai vraiment aucun souvenir, j'ai pas du tout connu, donc j'ai vécu, j'ai grandi qu'avec présence féminine, donc ma mère et ma sœur. Donc du coup, j'ai pas du tout de repères masculins dans ma jeunesse, enfin, des repères au quotidien, vu que j'avais quand même des amis de ma mère, enfin, des oncles et tout ça, que je voyais. Mais c'était pas H24, donc ça m'a manqué quand j'étais petit.
Bah,
donc
oui.
Du coup, je me voyais pas du tout avoir d'enfant, et vu que je me dis, j'ai pas d'expérience, j'ai rien à lui apprendre, en fait. Et je serais vraiment défaillant dans ce domaine, en fait. Puis vu que j'aime ma copine, donc je me suis dit c'est peut-être pas une bonne chose à dire, mais bon, c'est plus elle qui m'a forcé, c'était pas vraiment comme un accord tous les deux, mais je me suis dit je vais tenter.
Tu t'es dit
Qu'on avait une discussion, enfin c'est un moment ça traînait, je voyais que enfin il y avait limite quelques clashs par rapport à ça, donc il y avait une discussion, hein. Puis je me suis dit tentons, enfin voilà, on a qu'une vie et puis ça va peut-être bien se passer et tout ça, donc
c'est parti de ça, dans le vide, quoi.
Voilà, après je me dis après, c'est peut-être des fausses excuses que je me suis dit aussi. Puis, de toute façon, j'avais vraiment retardé les choses. Donc, aussi, à un moment donné, autant y aller. Quoi.
Comment ça, des fausses excuses?
Genre, quand je te disais, je me sentais pas bien ou trop professionnel, c'est, en vrai, pour moi, c'était une fausse excuse en vrai, tu vois.
Sans doute que le truc du fait que t'aies pas connu ton père, c'était peut-être un peu plus fort que ça.
Ça, c'était plus fort que ça, en fait, ouais. Puis, je voulais peut-être laisser aussi une trace. Puis, il y a plein de trucs vis-à-vis de ma mère aussi. Je souhaitais qu'elle soit grand-mère aussi de mon côté, vu que ma sœur, j'ai une sœur on a 5 ans d'écart. Donc elle a déjà 2 enfants, mais je vais vraiment du côté du fils, quoi.
Ouais.
Surtout que ma sœur, elle habite en Angleterre, donc
c'est il la voit pas beaucoup.
Voilà. Donc voilà. Donc finalement, on s'est dit, allons-y. Et donc ça a pas trop, on n'a pas trop galéré, en fait. Sauf que forcément, tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc en gros, elle était tombée enceinte en 2011. Donc au bout du troisième mois, donc on a fait l'écho. Et donc, il s'est avéré qu'il y avait un souci. En fait, l'œuf, il s'était pas formé. C'est ce que je regarde bien mes notes parce que c'est fait un blackout
t'as oublié.
De ce truc, ouais. Je sais peut-être si c'était involontaire ou c'est peut-être, intentionnel. L'œuf, il s'était pas formé, en fait. Donc, en gros, on va dire que c'était une fausse couche, quoi. Donc, du coup, c'était le matin. Je sais que j'étais avec elle. Donc, après l'après-midi, elle était restée, toute la journée. Moi, j'étais revenu le soir, il était à jouer qui était à l'hôpital. Enfin, ils avaient fait des analyses, tout ça. Donc, il venait un médicament, en fait, pour pas pouvoir tomber. Je sais pas si c'est l'embryon ou enfin, l'œuf. Ouais. Donc, du coup, le soir même, il est tombé. Et puis, voilà. Et sachant que ce jour, c'était le 3 mai 2011. Et je m'en souviens parce que c'est ma fête. C'est Saint-Philippe, le 3 mai. Donc, okay. toute histoire de signes, on va dire. Et donc, voilà, c'était pas une très bonne. Voilà, très bon début. Voilà,
Tu dis carrément que t'as zappé.
En fait, inconsciemment, j'ai gardé, mais j'avais zappé vraiment tous ces détails, que ce soit cette date et tout ça. Donc, du coup, j'en ai parlé un peu avec ma copine, mais on en parle pas trop.
Ok. Mais il y a un vrai truc, tu sais, chez les darons où, bien sûr, en fait, une fausse couche, c'est avant tout, ça se passe avant tout dans le corps de la femme, et c'est évident. Mais de ce fait-là, on s'intéresse pas trop à ce qui se passe du côté des mecs. Et j'ai l'impression, en tout cas, j'ai vu dans plusieurs, dans plusieurs épisodes, que les mecs, émotionnellement, c'est un vrai truc aussi à gérer, quoi.
Ouais. Bah, après, moi, j'ai toujours des dramatiques en disant, moi, c'est rien par rapport à ma copine. Mais après, je sais pas du tout. J'y ai pensé. Forcément, j'étais pas bien. Mais c'est pas comme si j'y pense tous les jours, en fait. Et là, dernièrement, je me suis dit, ah oui, ça m'arrive d'y penser, mais pas... Je sais que ça a été très dur pour ma copine après. Mais ça nous a pas stoppé, en fait. Dire, on a quand même continué. Et au bout de 4-5 mois après, elle était de nouveau enceinte, en fait.
Okay.
Donc du coup, là, ça a été, en fait.
Comment s'est passée l'annonce de cette grossesse?
La vraie, tu veux dire, ou la...
celle qui vient d'arriver, là. Celle dont tu me parles.
Ouais, même si, bah, ça y est.
Mais ceci dit, on peut peut-être, si tu veux, d'abord parler de la première qui s'est terminée en fausse couche. C'est pour ça peut-être que c'était dur, c'est que tu t'es projeté tout de suite.
Ouais, mais ce qui est dur, c'est moi, mais voir ma copine dévastée, en fait. Après ça, tu te dis, toujours la question, pourquoi ça tombe sur moi, et ce genre de trucs.
Alors que, après, spoiler alerte, il y a plein de gens qui ça arrive. Quoi,
c'est assez fréquent, mine de rien. Ouais, je sais pas, on était tout guillemets, on a annoncé bien avant, trop tôt, même sans doute.
Okay.
On s'est dit, pour le prochain, on va attendre vraiment. Je sais pas, ça me fait déchirer le cœur de voir comment elle se sentait par rapport à ça. Il me s'est dit, merde, ça y est, ça commence comme ça, qu'est-ce que ça va donner ensuite? Est-ce qu'on va pouvoir surmonter ça? Bref, tout ce genre de trucs. Mais pour une fois, comme je te dis, ça, après, j'ai zappé.
Ouais.
Ça, et du coup, je me projette pour donc la vraie première grossesse. Et c'était cool, enfin, tu vois, de voir ma copine avec son ventre, toucher son ventre, sentir tous les petits coups, les vibrations, tout ça, c'est agréable, en fait. C'est magique, même. Et c'est kiffant, en fait.
Après, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là à ton toi qui voulait pas d'enfant d'il y a quelques années avant?
Je me dis, putain, va falloir assurer. Va falloir assurer. déconne pas, enfin. Une grosse responsabilité, quoi. Et surtout, on n'avait pas demandé à savoir le sexe. Donc c'était vraiment la surprise, parce que je me suis dit, est-ce que je préfère avoir une fille ou un garçon? Peut-être je me suis dit garçon, pour essayer de lui apprendre ce que j'ai pas reçu, en fait,
ouais.
Pour relation père-fils. Si je me suis dit, c'était une fille, je me suis dit, ouais, ça va être cool aussi. Peut-être être... J'ai le cliché de la fille accrochée à son papa, tu vois.
Ouais.
Par rapport au garçon qui est moins... j'en reparlais tout à l'heure. Mais...
Ouais.
Donc voilà. Ça s'est très bien déroulé, en fait. La grossesse, ça a été cool. On arrive au jour fatidique. Et en fait, on se souvient, c'était en 2012, ouais, en avril 2012. Et moi, j'étais à mon entraînement de basket ce soir-là. Du coup, les derniers mois, j'étais toujours en flip de dire, ah, ça va sonner, il faut que je me prépare. Donc là, je terminais pile l'entraînement et je vois un message, ma copine qui dit, oh, j'ai perdu les os, mais t'inquiète pas, j'y suis allé tranquille. Parce qu'il faut savoir, j'habite à Montrouge et Montsouris, c'est genre à 10 minutes à pied. Donc elle a pris le taxi, ça va, c'était pas urgent. Et ouais, je parle pour un débile, mais pour moi, perdre les os, je savais pas ce que c'était quand j'étais petit. Mais c'est quoi perdre les os? Ça veut dire quoi perdre les os?
Tu savais pas sur le moment?
Non, franchement, je savais pas. Enfin, du coup, maintenant, je sais. Mais du coup, ça me paraissait bizarre de dire cette expression perdre les os. Donc voilà. Donc moi, j'étais en panique, j'étais merde.
T'avais pas fait les trucs de préparation et tout, là?
On peut dire, pas à ce moment-là, après j'ai su, mais je veux dire, avant d'être. De projet d'être père, tout ça, je savais pas ce que ça voulait dire. J'ai oublié de préciser, tu l'as dit, j'ai tenu à citer à toutes les préparations.
Ah bah, il faut raconter ça. Comment s'est passée la grossesse?
C'était nickel, faire toutes les échos, voir. L'enfant naît, quoi, avec la forme et tout, voir qu'il est en bonne santé, on voit la forme et tout. Puis les cours de prépa aussi, c'est intéressant, les cours de respiration, tout ça, visiter la future
Maternité
voilà. Qui était très bien d'ailleurs, c'était super, c'était un bon moment aussi. Et du coup, je m'en souviens très bien que c'était une prof, c'était un cours de respiration qui disait faire un enfant, c'est un acte quand même assez égoïste en fait, parce que lui, il a rien demandé. Donc ça, j'avais retenu dans ma tête, c'est vrai que c'est une dinde, c'est quand même quelque chose que nous on désire, mais lui, il n'a pas forcément envie de naître, parce que je me reprojette petit, je me dis, attends, j'ai pas demandé à naître comme ça ou avoir ce genre de soucis, tu vois. Voilà.
Tu veux dire quand t'as perdu ton papa, etc.
Ouais,
c'est
voilà,
ça
même quand j'ai grandi, durant l'adolescence, quand j'étais. Par rapport à d'autres, que je me sentais pas bien. Lui, ouais. J'ai pas demandé d'être comme ça par rapport à d'autres. Donc voilà. Désolé pour l'aparté.
Mais non, mais c'est pas une aparté parce que ça fait partie de ton histoire, tu vois.
Et donc je reviens donc à la grossesse. Oui, donc voilà. Donc,
attends, mais juste pour revenir à la préparation.
Ouais.
Pourquoi t'as tenu à la faire? C'était pour te. Aussi peut-être pour te rassurer, c'est ça, par rapport au.
Bah non, parce que je me dis, c'est 50-50. Enfin, 50 plus, disons plus 70, comme vu que c'est elle qui le porte. Mais ouais. Je veux dire, je me sentais investi dans le truc, okay. Tu vois. Puis même moi, ça m'intéressait de voir aussi comment elle allait se préparer à ça et tout ça, de voir le lieu. Enfin si, ça m'intéresse en
fait. Donc tu t'étais pris au jeu en fait parce
pour moi, de base, je me disais, c'est un truc normal en fait. C'est même pas... C'est un truc de base que n'importe quel père fait en fait, tu vois.
Comme tu viens d'un endroit où t'as pas du tout envie d'enfant, si tu veux,
ouais.
Tu vois, et qu'on sent que tu disais, bon, elle m'a un peu poussé à un moment donné, quoi, tu vois, on aurait pu se dire à un moment donné, bon, bah,
non,
toi, voilà, une fois que t'as décidé d'y aller, tu joues le jeu, quoi.
Bah, autant y aller à fond, quoi. Okay, donc, voilà. Donc, ouais, juste ça. Et donc, du coup, je reviens de l'accouchement. Donc, c'était le soir, donc j'ai rejoint l'hôpital. Donc là, elle était en attente, tranquille. Je voyais, ça m'être... Pour moi, dans ma tête, c'était genre dans les films, quand tu perds les os, c'est vite, il faut y aller direct. Et t'as pas de temps à perdre. Alors que c'est vraiment à la cool.
Ne croyez pas tout ce qu'on raconte.
Je suis arrivé, elle était là, à la cool, tranquille, on attendait. Donc voilà, donc entre-temps, je suis retourné prendre ma douche, je suis revenu, et on a attendu.
Ouais, parce que t'es allé direct de l'entraînement de basket.
En fait, voilà. Donc voilà. Donc ça s'est déclenché ça a commencé le soir, en fait, et donc voilà. Bah après, c'est pas si glamour que ça, un accouchement, on va dire. Donc voilà.
Comment tu l'as vécu?
Parce que moi, j'imaginais, le bébé va sortir naturellement, tout ça, et encore une fois, non, ça s'est pas passé comme ça.
Croyez pas ce qui se passe dans le film.
Non, c'était compliqué parce que je crois que le cordon était coincé autour de son épaule. Mmh. Donc du coup, il avait beau pousser, on disait pousser, je voyais qu'elle souffrait aussi, tu vois. Ma copine, c'était douloureux, tu vois, une sorte de scène un peu gore. Enfin, tu vois, du sang partout, c'est pas si glamour que ça, ouais, comme je disais. Et donc du coup, ça me faisait la peine pour elle aussi de pousser, tu vois. J'étais là, tu te sens un peu... tu sers à rien en fait, en gros, quand t'es un mec à l'accouchement, concrètement. Sauf essayer de lui tenir la main, mais voilà quoi. Et donc tu vois toutes les infirmières défiler, on va réessayer, on revient, on va réessayer, est-ce que ça va, machin. Et au bout d'un moment, en poussant, on voyait que ça allait pas et qu'à un moment donné, il fallait déclencher parce que. Ouais, fallait déclencher sinon. Voilà, donc du coup, on a fait une césarienne en fait.
Okay.
Mais à partir de là, j'ai pas assisté. Du coup, moi, dans la salle, j'étais vraiment à l'extérieur.
Je crois pas que tu puisses.
Ouais, je peux pas en France. Ouais. Donc, du coup, j'étais à l'extérieur. J'ai vu juste. Ah, c'est. Ils ont. Mon petit s'appelle Maxence. Donc, le premier, ils l'ont pris. Il était limite bleu.
Ouais.
Tu vois, donc. Mais ça va, il respirait, mais c'était.
C'était flippé
de voir ton enfant qui sort qui est. Ah, il est. Ok, ça, il va être métis, mais bleu, je connaissais pas cette couleur. Et donc voilà, donc je suis arrivé avec lui, on fait les soins et tout ça, donc ça a été. Mais disons que c'était un début difficile parce que j'ai pas eu le droit au cordon ombilical.
Tu voulais le couper?
Bah ouais, moi ça commençait comme ça le lien pour moi, tu vois. Okay. Que je me dis, ma copine elle a porté pendant 9 mois, tu vois, c'était vraiment son truc. Enfin, 9 mois la communion entre deux, et moi j'étais extérieur à ça en fait. Donc du coup, je me dis, je voulais vraiment couper le cordon.
Je crois que t'es. Pas loin, enfin, il n'y a pas eu beaucoup de darons dans le podcast qui ont dit qu'ils voulaient vraiment.
Ah ouais, non, c'était vraiment, ça me faisait partie du truc. Et...
Ouais, c'est intéressant.
Donc, du coup, j'ai pas eu le droit à ça, donc j'ai même pas eu le droit du coup de faire de peau à peau, rien, vu qu'ils ont mis direct dans un petit lit avec des soins, et donc du coup, après. Je mélange avec lui et mon deuxième, je sais plus s'ils l'ont ramené à elle, ou si elle est revenue dans la salle, ils ont posé l'enfant, enfin bref, donc ça s'est passé comme ça, j'ai pas eu de rapport avec lui en fait, en gros.
Ok.
Donc voilà.
T'étais triste?
Un peu, ouais. Franchement, ouais. Pour une première, je me suis dit, merde, j'ai aucun... Enfin, c'est comme si j'étais vraiment étranger, du coup, à la scène. Enfin, je le voyais, mais j'avais pas de contact physique, en fait. Donc ouais. Et puis, du coup, la surprise, c'est c'est un garçon, en fait. Tu vois, t'es là, c'est un garçon. Donc, t'es... Waouh, ça y est, c'est... Ça arrive, quoi. C'est... Waouh, c'est...
qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là?
Ben, en même temps, c'est magique, je suis désemparé, je suis paumé, parce que la situation, surtout, disons que l'image que j'ai eue de lui, c'est... J'étais un peu triste de le voir acheter d'une certaine couleur, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la réaction, qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, j'avais peur surtout d'un truc dramatique en fait. Maintenant, ça a été. Et donc, après. J'ai vu ma conjointe qui allait bien, parce que j'étais aussi flippé par rapport à elle, je voyais qu'elle, que comme elle avait abîmé physiquement une césarienne, c'est pas rien, tu vois. Je sentais qu'aussi, elle avait un peu mal vécu, forcément, tu t'attends pas forcément à te faire, entre guillemets, couper le bide, par contre, ton premier gosse, quoi. Donc c'était aussi dur pour elle. Puis même physiquement après.
C'est une opération, quoi, il faut.
Donc, elle s'imaginait pas ça, et moi non plus, on s'imagine tous forcément, quand tu vas avoir un enfant, ça va être le plus naturel possible, quoi.
Il ne faut pas faire de plan, je crois.
Après, on a été dans la chambre. Après, j'ai laissé se reposer. Moi, je suis reparti chez moi, forcément. Après, je suis retourné le lendemain. Après, on a fait les premiers soins. On nous a expliqué tout ça. Donc, les premiers caca. La matière. J'assimile ça à une histoire de slime noir, une sorte de venom. Tu vois, des... Le symbiose, voilà. C'est du symbiose. Donc, c'était tout mignon de voir les premiers gestes, ton enfant pleurer, tout petit, faire les premiers soins. Il fallait le nombrer, nous montrer les ongles, il va falloir faire attention pour couper les ongles, tout ça. C'était magique. J'étais fier aussi, je me suis dit, ça y est, ma mère va être toute contente, les potes, je lui ai annoncé ça. Enfin, si, il le savait déjà, mais vraiment concrètement, quoi. Ouais, c'était cool. C'était bien.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Et toi, comment tu vis alors ces premiers jours-là? Est-ce que tu arrives à trouver ta place, justement? Parce que tu sais que tu avais un peu peur, justement, de...
Après, ça n'a pas été immédiatement, mais après, par la suite, c'était pas une bonne période, on va dire, parce que j'ai pas du tout trouvé ma place. Je vais peut-être sauter, je vais mélanger, mais désolé, mais... après, forcément, il vient à la maison, tout ça, le premier jour, donc...
Oui, à un moment donné, il rentre à la maison.
Faut accepter le troisième, en fait. Faut vivre avec un troisième, c'est plus pareil. Souffrir au premier cri, le fait qu'il soit toujours scotché à sa mère, c'est normal, tu vois. Mais là, j'avance un peu, mais moi, je sais que
ta compagne, elle est allaitée, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et je sais que dès là, je me suis dit, de base, je vais donner le biberon, en fait. C'était un truc que je me voyais donner le biberon. Du coup, c'était pas possible. Il nous a dit, continue quand même à allaiter, c'est mieux aussi. Et une fois qu'il commence à toucher le biberon, ce sera mort. Donc, mieux quand même continuer à allaiter. Donc, moi, je vois que ça me pesait. Et puis, à un moment aussi, il était fatigué. Tu vois, ça pompe, quoi, le bébé quand il a faim. Puis, ça fait mal. Enfin, c'est pas un truc agréable. Tu vois, je voyais à un moment qu'elle était fatiguée, qu'elle luttait. Donc, à un certain moment, on dit, stop, maintenant, je vais congeler mon lait. On va introduire le biberon. Donc, voilà. Donc là, ça a été une première expérience avec le biberon. Quand c'est arrivé, je le tenais enfin. Tu vois, j'ai
combien
manger.
De mois
Je sais plus combien, peut-être 4-5.
Okay. Ouais, c'est long quand même.
C'est long. Ouais. Ou peut-être moins. Enfin, je te dis, Je sais plus trop. Mais ouais, là, c'était quand
plusieurs
même...
mois, quoi.
Ouais, plusieurs mois. Et là, c'était une première approche. C'était cool. Du coup, je tenais, j'ai donné son biberon. J'étais tout fier, en fait. J'aimais bien.
T'avais du mal avant à le, enfin, tu vois, le prendre avec toi, etc. Avant ces mois-là.
Non,
ces
ça allait, mais juste, j'avais pas de lien comme. Je me suis dit, je ne le nourrissais pas, en fait.
Oui.
Dans le fait, voilà. Sauf que quand il pleurait, j'avais pas j'avais l'impression qu'il se calmait plus avec sa mère, tu vois.
C'est dur, hein, les premiers mois, ils sont.
C'est très,
sont,
très dur. Sont...
tu mais regardes après, dans le vide, là, les gens le voient pas.
C'est très, très dur. Mais ouais, après, en même temps, je me plains, mais je pense que c'est rien par rapport à ma copine qui est celle qui doit se lever pour allaiter, tu vois. Donc le soir, concrètement, enfin, moi je dis, ça sert à rien, juste d'être là, mais ça sert à rien. Donc c'est vraiment qu'a tout le crédit à avoir, quoi. Moi, c'est sur notre père, je me dis, au début, c'est pas grand chose, tu vois. Et donc, ouais, bah après les mois passent. Là, c'est cool avec le biberon. Et après, je vois quand même qu'au niveau de la relation, je vois quand même qu'il reste vraiment accroché à sa mère. Enfin, quand il y a un chagrin, tout ça, c'est vraiment sa mère qui réclame. Là, je vais plus loin, mais je veux dire, elle n'est pas arrivée comme j'aurais voulu, en fait, cette relation entre les deux. Je sais pas si c'était moi, inconsciemment, je faisais un rejet ou je sais pas, je me sentais pas bien par rapport à ça, je me sentais exclu, tu vois.
C'est dur, hein, de trouver sa place. Parce que, comme tu dis, en fait, il y a une troisième personne à un moment donné qui vient se mettre entre vous.
Ouais, c'est ça. Je me disais, je sais quoi, pourquoi il pleure quand il est avec moi ou quand il est avec sa mère, il se porte mieux. Donc, j'ai très mal vécu. Ouais. Et du coup, ça. Un peu. Comment dire ça. Je cherche mes mots pour.
Pour le temps.
Influer. Enfin, ça a débordé sur le couple, on va dire, quand même.
Okay. Tu vois,
les couples, on prend quand même un coup.
Je crois qu'il faut le dire à tout le monde. Hein.
Ça change d'avis. Et pas combien, voilà. Donc
parce que tu veux dire, vous preniez la tête de ce fait-là à cause de ça, c'est ça?
Ouais, beaucoup, parce que je voyais que moi je me sentais pas bien. Donc du coup, ça se voyait. Donc après, c'est des enfants, c'est des éponges, ils le voient aussi. Donc c'était pas bien au quotidien, tu vois. Il y a une période quand même, parce qu'on s'engueulait pour tout, tu vois.
Et puis la fatigue en plus.
La fatigue en plus. Ouais. Donc c'était compliqué, ouais.
Comment vous en êtes sorti? Cette période dure,
on a fait avec, j'ai envie de te dire.
Vous avez pas eu, il y a pas eu un déclic à un moment donné où vous êtes pas dit, vous avez pas eu une prise de conscience ensemble de, ok.
Bah si, sûrement on a dû discuter, vu qu'elle aime bien vraiment discuter. Moi, je suis pas quelqu'un, je suis un taiseux, j'aime pas parler. C'est pas dans mon caractère.
T'as le cliché du mec, quoi.
c'est ça. Hein,
merci de venir parler, en tout cas.
En fait, je suis à l'image de ma mère. Et pour le coup, ma mère, elle est comme ça.
Ta mère, elle parle pas.
Ouais. Elle prend la mouche très très vite. Désolé. Enfin, je pense pas qu'elle écoute, mais elle essaie, de toute façon, elle prend la mouche très vite.
La maman dit,
elle exprime pas trop ses sentiments, en fait. Mmh. Bon, je pense, en vrai. C'est moi qui dis ça, parce qu'elle s'est blindée suite à ce qu'elle a vécu aussi avec la mort de son mari, tout ça. Donc c'était pas évident aussi pour elle d'élever deux enfants. Oui, en plus, je reviens un bond en arrière, mais c'est que moi, j'ai vu que mon père est mort, j'avais 2 ans, donc il a fallu qu'elle gère entre ma sœur et moi. Donc, et moi, elle avait pas eu de place en crèche quand j'étais petit, donc vu que moi je suis à moitié Guadeloupéen, à moitié Togolais du côté de mon père et Guadeloupe du côté de ma mère, et donc ses parents, il y avait personne en métropole, donc c'était en Guadeloupe, donc ma grand-mère à l'époque, elle habitait là-bas, donc il n'y avait pas de place en crèche, elle a bien fallu s'occuper de moi, donc du coup je suis parti en Guadeloupe pendant un an et j'ai vécu loin de ma mère pendant un an. Voilà.
Ah, ok, quand tu racontes tout.
Donc voilà, c'était aussi.
Donc ta toute petite enfance, tu as perdu non seulement ton papa, mais aussi ta maman pendant un temps, quoi.
Ouais, voilà. Okay. Donc c'est avec mes grands-parents, mais de temps en temps, elle venait me voir quand même, mais c'était. Mais j'ai aucun souvenir, en fait. Enfin, mon petit tirage, j'avais entre 1 an et 2, donc c'est. Mais donc voilà. Bah après, elle pouvait pas faire autrement, donc voilà.
Ah oui, personne ne juge.
Oui, non, mais voilà, c'est ce que je me dis. Donc voilà. Enfin bref, je repensais à ça aussi.
Non, mais c'est intéressant. Ça, encore une fois, ça fait partie de ton histoire par rapport à. Donc, on sent que t'as du mal à. On sent que tu as du mal à avoir cette relation avec ton enfant que tu voudrais bien avoir, tu vois, dans les premiers mois. Et forcément, je crois que c'est pas forcément étranger, quoi, tu vois.
Ouais. Et donc, je reviens. Bon, ouais, je sais pas, on a discuté, ça a été, quoi. On a fait avec. Après, tous les jours, enfin, tous les premières fois, donc. Voilà, je vais tout mélanger, je crois.
C'est pas grave.
La première fois de la crèche, j'adore. Enfin, moi, tout ce qui est. Ouais, la crèche, j'adore ça, en fait. C'est les premiers pas, on met ton enfant là-bas, voir les infrastructures, comment ça se passe, les personnes qui s'en occupent, la communauté, ça, je vois, voilà, les enfants évoluent entre eux, j'ai adoré ces moments. Donc, à chaque fois, j'ai toujours tenu, enfin, à être présent, toujours les premiers jours de classe, machin, les réunions, j'adore ça, en fait. Juste de voir ton enfant évoluer avec d'autres, c'est merveilleux, en fait, c'est magique. C'est une sorte de bulle dorée, je trouve, tu vois. Vraiment s'occupent d'eux, ils sont chouchoutés, enfin, pas toujours, hein, ils sont quand même grondés quand il faut, mais c'est toujours un espace neutre, où il n'y a pas quelque chose qui peut gêner, enfin, pas comme le début après de l'école et du lycée, forcément. Là, c'est plus violent, je trouve, psychologiquement pour les enfants.
Ça vient plus tard, ouais.
Donc là, c'est vraiment, c'était cool, cette ambiance. Quand j'adorais ça, on m'emmenait le matin. J'adorais le porter dans le porte-bébé, ce que j'adore, ça. C'est vraiment de sentir contre moi. Ça, j'adore. Plus que la poussette que je déteste.
Tu peux plus trop, là, maintenant. Ils sont...
Ouais, mais j'ai toujours détesté ça, le transport avec la poussette. Mais vraiment, le porte-bébé, c'est un truc que j'adore, en fait. Ça, c'était cool. Et donc, ouais, donc, plus, il y a eu des bons moments, quand même. Mais, puis, ouais, devoir évoluer, grandir, marcher, dire ses premiers mots, tout ça. Mais. Il y avait quand même quelque chose qui allait pas, je trouve qu'il y avait j'avais pas ma place avec lui, en fait. Et quand ça a commencé à verser trois ans, il y avait une sorte de clash, et je voyais qu'il réclamait beaucoup sa mère quand ça allait pas. Et tu vois, j'ai pété les câbles, et franchement, je crois que j'ai fondu en larmes à nombreuses reprises, tu vois, dans le sens où quand je lui ai donné 120, par exemple, un exemple, je vois qu'à un moment, il pleurait, il voulait sa mère, il n'arrêtait pas de réclamer sa mère. À un moment, je ne le supportais plus, en fait. À un moment, et donc, du coup, ça m'a vraiment cassé en deux, quoi, genre le truc. Et j'ai très, très mal vécu.
Comment tu as fait pour renouer une relation avec ton...
Je pense que je ne sais même pas si j'ai encore, honnêtement.
Aujourd'hui, là.
Ouais, jusqu'à maintenant. Parce que si on parle là-dessus, en fait, donc à bout de... Vers ces 3-4 ans, je crois qu'on a commencé à aller voir une psy, en fait. Avec le recul, je me dis, putain, c'est vraiment que c'est tôt d'identifier ça, mais bon.
Non, il n'y a jamais trop tôt, je crois.
Parce qu'on a commencé avec la PMI, enfin la crèche, la PMI. Enfin, surtout moi, plus moi que ma conjointe, vu que c'était vraiment moi le souci. J'avais du mal avec lui, donc on a commencé à aller voir.
Mais c'est trop cool de faire ça en même temps, plutôt que de juste avoir ton seum et le garder avec toi. Tu vois, au moins, tu vas chercher des solutions, c'est trop bien.
Mais du coup, parce que... Enfin, je suis hyper sensible, en fait, et du coup, c'est là, j'en monte après des années, mais quand il y a quelque chose qui va pas, il est vraiment dans un excès permanent, tu vois. Il va le moindre truc, il va crier, mais genre, c'est un excès, c'est pas genre un petit cri, c'est vraiment le moindre truc, il va crier. Là, je le vois déjà avec son petit frère, mais j'en reviens plus tard. Mais donc, ça a commencé avec ça, avec la crèche, puis avec la PMI, je racontais comment je me sentais aussi. Dans la
relation, donc tu parlais.
Fallait bien.
Pour le coup, t'es plus tes œufs. Hein.
Non, mais du coup, là, je reviens, je me dis, mais c'était vraiment trop tôt pour l'emmener. Enfin, bref. Mais donc, après, il y a eu ça. Après, il y a eu un psy entre lui, moi, puis avec sa mère aussi, tous les trois. Donc, on a parlé. Il y a eu son moment à lui pour parler. Ce qui est marrant, c'est qu'entre temps, la psy, Maxence est devenue ma psy à moi pendant un an, mais ça, c'était pas compatible. Donc, du coup, j'ai été voir une psy. C'était pas pour le bien de la famille.
Ouais,
donc, c'était pas compatible. Donc voilà, donc depuis 4-5 ans, on consulte, mais irrégulièrement. Il y a des années, il y a une année ou deux, on a lâché parce qu'on a dit, bon, on va faire un break. Et là, on a repris dernièrement, voilà, parce que c'est... Il a son caractère, je dis, il est hyper sensible, mais vraiment dans un excès. Il supporte pas plein de trucs, en fait. Puis ça s'est accentué avec son frère, il est devenu ultra jaloux, tu vois. Il compte ce qu'il y a dans ton assiette, dans son assiette par rapport à l'autre. Tu vois, s'il fait un truc, il va dire, moi, je vais faire pareil. S'il a ça, je vais faire pareil. Tu vois, tout est injuste pour lui. Voilà.
C'est étonnant, parce que souvent, c'est plutôt les deuxièmes qui font ça que les aînés, tu vois.
Mais là, c'est vraiment lui. Pour le coup, c'est comme s'il était resté encore
tout seul, quoi.
Ouais, tout seul. Genre, limite, on traite d'égoïste. Enfin, bref, après, j'en travaille dans l'état, mais notre relation était vraiment, je t'aime, moi non plus. Et c'était sa base de cris et de paroles que je regrette, même, tu vois. J'étais vraiment violent, dans les paroles avec lui, tu vois, c'était très dur, et c'est vraiment une relation bizarre, et voilà, je suis pas à l'aise avec cette relation, et d'un côté, j'ai envie de changer les trucs, mais je me dis, putain, des fois, ça me saoule, en fait. J'ai même eu des regrets, je me suis dit, apparemment, j'aurais préféré qu'il soit pas là, en fait. Mais, c'est que c'est violent à dire, désolé, mais...
Non, mais après, c'est sûr que si t'as du mal à le gérer, quoi...
Ça m'est arrivé, du coup, ça crée des clashs avec ma copine par rapport à ses paroles, tu vois. Je sais que je lui ai déjà dit, mais... J'ai pris sur moi, j'ai quand même été lui dire non, tu vois. Parce que faut pas laisser un truc en stand-by comme ça, mais j'ai quand même été expliqué que non, c'était, j'étais dépassé ce jour-là, donc j'ai dit ce qui sortait de ma bouche, mais je trouvais que c'était encore plus violent que donner des coups, en fait, tu vois. En
ouais, termes bien psychologiques. Sûr.
Donc ouais, je m'en veux par rapport à ça.
Et t'as réussi à progresser, justement, tu dis que tu voyais une psy, etc. T'as réussi à progresser sur la gestion de tes émotions?
Bah
quand
ouais, non, par moment, bah. C'est du travail.
Ah oui,
c'est du travail.
Ah, ça
je suis en plein dedans en ce moment. ouais, non, il y a des moments ça va, il y a des moments. Bah, pour tout te dire, là, la chose dont je fais des allers-retours, pour tout te dire, ma conjointe, elle est partie en Corse, puisqu'elle ne se voyait pas rester là pour, pendant les trois semaines. Donc, elle est partie en Corse avec les deux petits. Et donc, là, du coup, elle m'a appelé juste avant que j'arrive. Elle m'a appelé pour me passer le plus grand, pour dire, mais justement, je supporte plus, il est infect. Et donc, il était en train de pleurer au téléphone. Parce qu'il m'expliquait, en gros, parce que c'était une histoire de chaise. Il est parti de sa chaise chercher un truc à la cuisine. Il est revenu. Donc, son petit frère a pris la chaise. Et ça a créé une crise de fou. Donc, voilà. Donc, pour ce genre de détails, tu vois. Et là, j'étais cool, j'essayais de le rassurer au téléphone, j'étais cool. Là, pour le coup, je me dis, est-ce que c'est peut-être parce qu'il me manque au final? Je me suis rendu compte qu'il me manquait quand ils sont partis. Alors que dans ma tête, je me dis, en fait, je l'aime pas cet enfant. Je me suis déjà dit, franchement, que je l'aimais pas.
Ah ouais?
Ouais, à un tel point, il me dit, mais en fait, parce qu'il y a des moments où je le supporte pas. Bon, tu sais, dans son attitude, dans sa façon d'être. C'est comme si je faisais un rejet, en fait.
C'est dur.
Ouais, c'est vraiment
dur pour toi.
Pour moi et pour lui aussi, parce qu'il le voit.
Pour lui aussi, j'imagine, ouais.
Et en même temps, je me dis, mais merde, en fait, et je me pose plein de trucs. Je me dis, mais c'est pas normal, en tant que parent, t'es pas censé te dire ça, de vous devoir rejeter ta progéniture, tu vois. Et je me dis, merde, putain, il y a un truc qui va pas en moi, tu vois, je suis néfaste pour lui, genre de truc, je me dis. Et c'est super dur, en fait, à vivre au quotidien. Je me dis, ouais, j'aurais pas dû l'avoir, il aurait pas subi tout ce qu'il subit, tu vois. Donc c'est ce genre de questionnement au quotidien.
Continues.
Ouais, c'est loin d'être fini. Et, voilà. Et puis avec le confinement, ça n'a pas arrangé les choses. Voilà.
Mais ce qui est rassurant, entre guillemets, c'est de voir que tu bosses, quoi, tu vois, sur
bah
toi.
Ouais, parce que sinon, ce sera invivable. Et puis je me dis, bah, c'est con, mais j'ai un enfant, donc autant essayer de donner le meilleur pour lui, tu vois, et... J'ai pas mis au monde pour le pourrir, en fait, tu vois. Donc, même si c'est dur, c'est. Enfin, j'ai tendance à dire, c'est. Avoir eu mes enfants, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée, mais aussi la pire chose, tu vois. Entre les deux. Vraiment la pire chose. Je me dis. Par moment, je me dis, c'était un vaccin pour plus avoir d'enfants, c'était vraiment mon plus grand. Après lui, hop, c'était fini, je voulais plus d'enfants, s'il m'a vacciné. Et ben non. Mais voilà.
On y reviendra, mais ouais. On a tendance à oublier.
Mais ouais. Donc, ouais, c'était. Il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'était très dur, en fait, dans la relation. Ouais. Parce que du coup, à vrai dire, je m'en souviens. Tu trouves des bons moments que j'ai passé. Enfin, je m'en souviens des bons moments, mais surtout beaucoup de mauvais moments. Et ouais. C'est très très dur et il y a plein de choses parce que j'ai toujours en tête moi vu que j'ai pas confiance en moi donc je doute sur tout donc quand je vois des potes à chaque fois qu'ils sont je me fais enfin c'est ma vision de ce que je vois de leur vie c'est toujours entre guillemets des pères cool où tout se passe bien avec leurs enfants t'as toujours l'image des entre guillemets des séries ou des documentaires les parents ils sont cool donc tu vois je dis, comment ça se passe avec toi je dis, oh, mon enfant il est cool il est sympa il écoute alors moi je dis merde et voilà j'ai raconté ma vie et le mien il est pas comme ça tu vois j'ai des petites réflexions que ça c'est rien pour eux mais je sais que là il a eu 9 ans mais pendant entre ses 7 et 8 ans quand je disais bah il a encore ses sauts d'humeur il est caractériel tout ça je me dis oh c'est à cet âge-là bah c'est pas normal tu vois genre le mien tu vois ce genre de réaction je me dis putain merde ferme ta gueule tu vois ça me...
avec des copains comme ça pas besoin d'avoir des noms quoi
après ils le font pas forcément
bien
méchamment
sûr,
tu vois mais du moins moi ça me blesse en fait ça me dit merde en fait je suis pas normal dans le sens je me dis eux ça va tout va bien de leur côté mais je sais que non forcément tout le monde a voilà
bien
c'est
sûr
ça. Mais c'est l'image que j'ai d'eux tu vois je me dis merde je suis le mauvais père en fait ouais, dans le sens
ok. Et qu'est-ce qu'elle en dit, ta petite, tout ça? T'es aussi franc avec elle que, bah, j'imagine, j'espère.
Ouais.
C'est quand même bien. Qu'est-ce qu'elle en dit?
Après, je sais pas, elle me dit, pardon, c'est normal aussi de penser ça. Bah, en gros, de ce que je retiens, c'est faut pas rester sur ça et avancer. Tu veux avoir une communication et d'avancer. Et c'est normal, c'est pas mauvais d'avoir des genres de pensées, en fait. C'est logique.
Ce n'est pas sale.
Voilà, d'être à bout, parce que moi, c'est. Encore une fois, quand je reviens en mer, si je parle de sa mère, elle me dit « Oh, c'est bon, lâche-moi avec ça, ça va aller, prends pas la tête. » Tu vois, ça me frustre, je peux pas avoir discussion avec elle. Et j'ai jamais eu de discussion avec un adulte ce que c'est de la paternité. J'ai pas eu de père et de modèle. Hein. Donc j'ai jamais pu parler de ça en fait. Donc c'est là que je me dis merde en fait. Ou je sais pas, ça m'a manqué. Ou... Après je dis ça, mais il y en a très bien qui se démerdent sans ça, qui ont été élevés juste avec leur mère ou leur grand-mère, je sais pas, et qui se démerdent très bien en tant que père. Hein.
Tu sais, moi j'ai un père hein, qui est toujours là et tout. Et en fait, on n'a jamais eu cette discussion-là. On l'a eu ensemble dans le podcast. D'accord. Sur qu'est-ce que c'est que d'être un père. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde hein, qui a vraiment des discussions, même quand tu galères. En fait, je ne suis pas sûr que tu ailles vraiment vers ton père, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais en galère, je ne suis pas allé voir mon père. Hein, parce que je crois qu'il y avait un peu ce truc aussi de bah, peut-être tu as galéré aussi avec moi, tu vois. Donc. Est-ce que vraiment t'auras des réponses à mes questions? Je suis pas si sûr. Ouais,
du coup, moi, j'en avais jamais des questions vu que je sais que ma mère c'était pas, c'est pareil, c'était une relation conflictuelle aussi vu que ma sœur elle est partie tôt. Bah déjà avec ma sœur et moi on se fightait beaucoup, c'était compliqué. Donc elle est partie tôt vers 17 ou 18 je crois en Irlande pour faire fille au père. Et puis elle est jamais revenue en fait. Donc du coup elle est anglaise maintenant. Donc voilà, donc je suis resté avec ma mère beaucoup. Donc c'était aussi lourd psychologiquement. D'assurer après, une fois que j'ai commencé à travailler aussi, aussi d'assurer avec ma mère, vu que c'est pas un repas non plus sur l'heure, donc je m'occupe aussi un peu d'elle.
Tu fais un peu les coups de main et tout.
Voilà, donc c'est aussi si lourd psychologiquement à gérer ça, plus ses enfants, plus ce quotidien. Donc c'était. Après, je devrais aussi lui faire confiance, c'est une adulte, elle sait ce qu'elle fait, tu vois, mais j'ai aussi ce réflexe de me dire, ah, faut que je m'occupe, faut que je. J'allais voir comment elle va, tu vois, elle me dit, avec l'âge, je vois qu'elle vit, enfin tout ça, c'est. Il y a plein de trucs qui vont dans ma tête comme ça. Ouais. Donc c'est compliqué. Même quand je me projette, je me dis, mais comment je vais gérer l'après, quand elle sera décédée, forcément.
Ah oui.
Est-ce que je vais pouvoir me relever? Comment je vais gérer ça? Il va falloir que j'assure derrière aussi, parce que j'ai ma vie. Enfin, c'est plein de questions comme ça.
Tu poses beaucoup de questions.
Pas trop. Parce que, pareil, ma grand-mère, enfin bref, ma grand-mère aussi, je l'ai perdue. Ouais. Bref, j'étais attaché à elle aussi. Enfin bref, ce genre de trucs. Et donc voilà, donc pour revenir à Maxence, c'était compliqué, donc c'est pas résolu. Et après, il y a eu des bons moments. Enfin, c'est un truc tout con, mais je reviens toujours avec ma mère. Mais quand on est avec ma mère, vu que j'ai pas eu de repère masculin, tu sais, j'ai jamais eu appris à faire du vélo quand j'étais petit comme tous mes potes. Donc pour moi, c'était une tare déjà. Quand je disais des tares, enfin, il y a physique, des tares aussi. Genre, faire du vélo, c'est un truc de base, je me dis, tu vois. Et le fait de pas savoir le faire, je me disais, je me sentais con ou un moins que rien, tu vois. Et c'est par le biais de Maxence, vu que. Il est son premier vélo, tout ça. Je me suis dit, ah ben ça va être cool, je vais mettre au vélo pour faire du vélo avec lui. Et comme je t'ai dit, vu que je suis venu de chez moi en vélo jusqu'ici, maintenant je roule dans le trafic parisien, tu vois, alors qu'il y a ça fait quoi, un an ou deux, tout simplement.
Ah, tu faisais pas de vélo, tu savais pas faire de vélo avant? Ah ouais, bah canon.
Donc après, c'est mon caractère, une fois que je vais dans un truc, c'est d'y aller à fond. Et...
Ok.
Donc voilà.
Donc, en fait, t'as appris à faire du vélo avec ton fiston qui a commencé à faire du vélo.
Pour
aussi.
Mon fiston, en fait.
Pour ton fiston.
Ouais. C'est dans ce sens-là, je me suis dit.
Mais c'est canon, ça.
Si, c'est un petit con, il a 8 ans, enfin 7 ans, merde, à 40 balais, il va falloir que je fasse faire du vélo. Donc, genre de truc. Donc, voilà. Donc, tu vois, c'est aussi ce genre de truc. Je me dis que c'est bien, il m'a poussé. C'est comme pour la natation. Quand j'étais petit, j'aimais pas ça, vu que. Pareil, j'aimais pas mon corps, donc je vais pas m'afficher. Disons qu'il y a une déclic, à un moment donné, je sais plus à quelle année, et ça a switché, je me suis dit, je m'aime plus. Donc, voilà, en gros. Okay. Après l'apparition de
l'adolescence.
Voilà, l'adolescence. Donc, pas de natation. Même quand j'allais avec ma mère en Guadeloupe pendant. Ça va en faire rire certains ou pas, mais vu qu'elle bossait à la poste, donc elle avait des congés bonifiés pendant 2 mois à l'été, donc on allait en Guadeloupe, mais pour certains c'était cool, mais pas pour nous. C'est comme je dis, c'est comme tu vas à la campagne, dans ta maison de campagne, tu te fais chier, tu bouges pas en fait. Moi c'était pareil aux Antilles, vu qu'elle avait pas le permis, elle conduit pas. Donc on allait à la plage d'à côté, mais elle était toute pourrie, tu vois, c'est vraiment avec ma mère, ma grand-mère aussi qui bougeait pas de sa maison, tu vois, elle a jamais bougé de sa maison, donc c'était pas des vacances idylliques, tu vois. Donc pour y en a qui comprennent pas, je me dis je me faisais chier pendant un mois quoi. Donc on a à la plage, moi c'est sur la plage vite fait, donc j'ai jamais vraiment appris à nager. Et pareil avec mon fils. Du coup je me suis dit vu que avec Charlotte, ma copine, on allait en Corse tous les ans, vu que ses parents ils ont acheté un appart là-bas depuis une trentaine d'années, donc c'est la résidence familiale, donc on y allait tous les ans. D'ailleurs en parlant de ça, je suis sûr que la première année où j'ai rencontré ma copine. Le premier été, je suis parti avec elle, donc c'était la première rencontre avec les parents, dans un élément que j'aime pas, donc la plage, puis la natation, je te raconte pas les vacances que j'ai passées, quoi. Un élément que je maîtrise pas, que je déteste, je m'aime pas, donc me mettre en maillot de bain, la rencontre des parents, je te dis, j'ai passé de super bonnes vacances, c'était compliqué.
Un grand saut dans le vide, quoi.
Tout ça parce que, voilà, on va dire, l'amour rend aveugle, comme on dit. Donc voilà. Donc pour revenir, donc du coup, pareil, pour mon fils, je me suis dit, oh, je vais me mettre à nager pour profiter de la mer avec eux. Donc voilà.
Et... Donc t'as appris à nager à quoi
C'était il y a 2-3 ans. Et depuis maintenant, c'est mon sport, disons, de prédilection avec le basket. J'y vais. Voilà, en ce moment.
Pas plus maintenant, oui.
Mais j'y allais genre, je sais pas, 3-4 fois par semaine, tu vois. J'étais à fond.
Ok. Ouais.
Donc je dis, quand je me mets dans un truc, j'essaie d'y aller à fond.
Mais ce qui est génial, c'est que tu l'as fait pour tes mômes, quoi, tu vois. Parce que tu t'es rendu compte que tu savais pas le faire et que c'était une tare pour toi aujourd'hui, quoi. Ouais. Tu l'avais pas appris, quoi.
Du coup, je me suis dit, je rentre un peu dans le moule, je suis un peu normal, parce qu'avant, j'étais un peu l'exclu. J'en parle, tu vois, c'est un peu honteux, mais bon, voilà, je l'ai dit.
Bon, c'est pas...
Enfin, pour moi, je vivais comme une honte, tu vois. Oui. Bon, voilà. Donc, du coup, je me dis.
T'es dur avec toi quand même.
Bah, je me dis, c'est des trucs de base que tout le monde sait faire. Parce qu'on avait une discussion avec ma copine justement là-dessus. Elle s'est rendue compte après qu'elle avait pas envisagé les choses comme ça, mais pour elle, si tu vois, nager, c'est un truc de base pour tout le monde. Mais j'ai dit, bah non, en fait, tout dépend d'où tu viens. C'est
bah, pas si forcément on t'a appris,
si on t'a appris. Et puis, pour moi, l'école, c'est pas vraiment un lieu où tu apprends bien à nager pour moi. Enfin, c'est mon point de vue. Donc, puis surtout, il y a des potes qui se foutent de ta gueule, en gros. Ça peut aussi te casser ou te.
Je sais pas s'il y a des gens qui ont des bons souvenirs de la piscine, même à l'école, même ceux qui savent nager, quoi. Tu vois, je crois que c'est dur, en fait, c'est nul.
Et donc, voilà. Donc, tout ça, oui, ça m'a motivé, non, ça m'a boosté pour ce genre de trucs, tu vois. Donc, je me dis, pour profiter d'eux, en fait, ouais. Donc du coup c'est cool parce qu'on fait des balades en vélo avec les petits, enfin plutôt Maxence. C'est dans notre rituel d'aller au cinéma, mais avec le Covid c'est plus ça. Donc c'est pour ça aussi, le Covid ça n'a pas aidé, les activités qu'on avait, c'est stoppé net.
Ça se coule plein de gens, quoi.
D'où les dessins, ce que je t'ai dit aussi.
Est-ce que tu les as mis sur ton
Instagram? J'ai mis, je sais plus, peut-être sur Facebook, pas sur Insta, je sais plus.
Ok. Est-ce qu'on peut les montrer aux
gens?
Ouais,
je te dirais.
Bon, c'est très sanglant. On est sur de la catharsis, sûr.
Oui, c'est ça. Et donc voilà, en gros, je sais pas si j'enchaîne sur le deuxième.
Bah si tu veux, oui, j'allais te
demander. Donc je te disais, c'était le vaccin, je me disais, après Maxence, plus jamais, j'en veux plus, j'en ai marre, c'est bon, ça... Entre guillemets, ça m'a pourri la vie, c'est trop de sacrifices, c'est trop dur en fait. C'est vraiment trop dur d'avoir un gosse, malgré ce qu'on dit, ça change un homme et tout. Moi, je pense pas clairement.
Mais si, ça t'a changé, enfin.
Oui, mais je vais dire.
Regarde ça, tu sais, aujourd'hui, tu sais nager, tu sais faire du vélo, rien que ça, mec.
Oui, mais je vais dire, base. dans la façon d'être, je me dis, ça changera. La personne d'avant, elle changera pas dans ce sens-là, tu vois.
Quittez-toi.
Enfin, si, un changement.
T'as pas l'impression que t'as. Enfin, franchement, t'es allé chez le psy et tout.
Je sais pas, pour moi, en fait, c'est ça. Ouais, je sais pas.
T'as appris à gérer ta colère, t'as appris à gérer tes émotions.
Pas toujours, hein.
Bah oui, mais ça, c'est du travail.
Je sais pas, c'est vrai, je suis quelqu'un de très
délicat. Dur avec toi.
Peut-être. Mais.
Franchement.
Et du coup, si. Ils m'ont appris aussi. Enfin, je me suis mis à cuisiner, du coup, grâce à eux. Enfin, grâce à eux. Je me dis, le fait d'inconsciemment vivre avec ma mère aussi, j'ai regardé faire, tout ça. Donc. Je faisais quand j'habitais tout seul aussi, mais même avec ma copine d'ailleurs. Mais là, plus avec les enfants, du coup, je me suis donné les moyens de faire plus de plats.
Non mais mec.
Donc voilà.
Arrête d'être dur comme ça envers toi-même, quoi.
Donc voilà. Mais le revers du malaise, c'est que les gamins, quand ils aiment pas, ils aiment pas. Hein. Donc t'as vraiment passé.
Ça. Alors, au fur et à mesure, ils finissent par en grandissant, ils finissent par.
Mais au début, c'est j'aime
les
pas.
Les goûts changent.
Ouais. T'es là, putain, fais chier. J'ai passé pas combien de temps dans la cuisine et ils sont là, j'aime pas. Donc. Mais bon, après,
ouais,
mais
tu l'as fait pour eux.
Voilà. Mais après, j'aime bien aussi, j'aime bien cuisiner. Donc c'est cool. Oui, du coup, ça, grâce aux gamins, j'essaie de leur apporter, enfin, sans prétention, une sorte de goût culinaire un peu qui change, quoi, tu vois.
Bah oui.
En faisant des plats différents. Et donc, pour revenir au deuxième, donc, Basile. Oui, garçon, donc, encore un garçon.
Donc de base, tu t'étais dit, moi j'en veux plus.
Ouais. Et fini. Après, bah, comme je disais, l'amour en t'aveugle, on va dire. Hein. J'ai su, je me suis dit, allez. Au pire, il pourra pas être pire que le premier, tu vois. Déjà, le premier, c'est voilà.
Donc c'est ta compagne qui dit, moi j'en veux un deuxième.
Ouais, moi je suis toujours non, je sais pas. Parce que peut-être les potes aussi, je vois le premier, après le deuxième arrive, tu vois, c'est tout un enchaînement. Ma sœur, elle a un deuxième aussi. Enfin, elle en a deux, je veux dire. Je me suis dit, allez. Puis je me suis dit, putain, j'espère que ce sera une fille cette fois. Parce que comme je te disais, je pensais que les filles, ça s'est vraiment accroché à leur papa, tu vois. Mm. Donc du coup, je me suis dit, non, on va demander le sexe d'abord. Donc voilà, encore une autre histoire. Et donc là tout se passe bien, cette fois la grossesse a été bien. Mon premier écho, on peut savoir les sexes, donc on sait que c'est un garçon. Et là, au lieu d'avoir une réaction genre ouais c'est cool, je m'en souviens que j'étais effondré, mais vraiment, tu vois, vraiment.
Ah ouais.
J'ai essayé de pas trop le montrer, mais ça se voyait que j'étais bien débuté. J'étais merde, putain, et c'est reparti. Franchement, j'ai vu que comme ça.
Oui, parce que là, ton aîné, ils avaient quoi?
Ils ont 5 ans d'écart. Ouais.
D'accord.
Ouais, 2017. Donc je me suis dit, merde, putain, c'est reparti. Et voilà, donc j'ai très mal vécu ce moment. Bon, après, c'est fait, je me suis dit, c'est bon, on va préparer le truc. Puis après, quand il est arrivé, corps césarienne, forcément. Hein, c'était, voilà.
Ah ouais.
Mais pour le coup, ça s'est passé, on était tranquille à l'appart, le soir, on a vu que ça commençait, donc je me suis dit, on va appeler son père, avec son père, les médecins en plus, donc du coup, c'est qu'ils nous emmenaient en voiture à côté, donc on était à la cool. Et là, ça a été. Du coup, c'était le matin, ouais, qu'il est arrivé. Et bah, donc, j'ai césarienne, pareil, mais pour le coup, ils m'ont emmené directement, et là, j'ai pu faire du pot à pot.
Ok.
Donc là, j'ai eu vraiment une autre approche avec lui.
T'avais créé la relation.
Ouais, et là, du coup, j'ai senti vraiment, tu sais, sentir son premier souffle sur soi et tout, j'étais là, c'était vraiment une toute autre expérience. Donc ouais, j'ai adoré ce moment. Donc après, la mère est arrivée, bah pareil, c'était pas agréable de voir une césarienne, je voyais aussi qu'elle souffrait, mais là, ça a été. Puis voilà, ça s'est bien déroulé, le retour à la maison. Bon, après, il a fallu gérer pas de peau au tout début, mais la relation avec le grand frère, forcément, ça change, vous le savez aussi à lui. Hein.
Donc voilà. Comment il l'a vécu, justement, bah, vous lui avez dit pendant la grossesse?
À la base, je crois que c'est lui qui a commencé, bah, peut-être comme tout enfant, ouais, j'ai envie d'avoir un deuxième, tu vois. Et
tu as envie d'avoir un frère.
Voilà. Enfin, deuxième, ouais, un frère. Deuxième. Et donc, ouais, bah, pour lui, il était prêt, mais forcément, entre dire ça et quand ça arrive, c'est pas la même.
La théorie et la pratique.
Ouais, bah, sachant qu'ils sont dans la même chambre, donc c'est. Bon, au début, non, vu qu'ils dorment avec nous, ça allait, mais sachant qu'ils sont dans la même chambre, c'est un peu compliqué, on va dire, pour gérer ça. Mais bon, là, ça va un peu mieux. Mais au début, vu que c'était pas sur le même rythme, c'était un peu compliqué, mais. Du coup, ouais, non, ça a été. Bah, après, il y a les crises de jalousie, hein, qui arrivent, avec le deuxième. Ben, le deuxième, disons que je t'ai dit que c'était un psychopathe, mais avec un bon fond, je dirais. Alors que le premier, j'ai tendance à dire qu'il a un mauvais fond, mais c'est fou. Enfin, c'est ma façon de percevoir la chose. Dire qu'il est une sorte d'égoïste, alors que lui, il est plus dans le partage, il est plus dans. Ben, l'autre, il est plus comme moi, en vrai, tu vois. Il est pas très tactile, il est très sur lui-même, tu vois. Ouais, voilà. Et le deuxième, il est plus jovial, il va plus voir les gens, il va faire des câlins, tout ça. Donc là, tu sens vraiment la différence des deux. Et donc, entre guillemets, il dit « Ah putain, ça fait du bien d'avoir un enfant qui... »
Qui vient faire des câlins.
Qui vient faire des câlins, qui demande, qui en demande de son père, en fait. Parce que n'était pas le premier. Et donc, j'ai senti vraiment. Donc du coup, c'est un peu vicieux, parce que dans la relation, il le sent, et je sais. Il en joue, forcément, le deuxième. Enfin, il s'appelle Basile, il en joue. Et en disant « Ouais, je t'aime papa, je t'aime maman. » Il va dire ce que fait les conneries du premier, tu vois. C'est bien vicieux, mais en même temps, je le sais, en même temps, je le prends pour moi. Je me dis « Ça fait du bien quand je fais un repas, le petit dit « Oh, t'as fait un bon repas, tu vois. » Alors que le premier est toujours dans le sarcasme, où il dit « Ouais, c'est pas terrible, j'aurais fait mieux, tu vois. » Là, t'es tout le temps là, petit con, alors que le deuxième, il est là, c'est bien ce que t'as fait. Tu vois, je sais qu'il en joue, mais moi, c'est en gros, avec l'ego, ça gonfle l'ego, tu te sens bien, en fait. Et on a tendance à dire, ouais, c'est comme choisir son père ou sa mère. Moi, je dis, je sais que je les aime tous les deux, mais.
Ah, après, t'as une relation un peu plus dure avec l'aîné. Quoi.
Avec le petit, je sais que c'est plus fusionnel, en fait.
Mais en plus, je crois qu'il y a un cercle vicieux qui se met en route à un moment donné. C'est terrible, parce que de ce fait-là, tu vas plutôt avoir tendance à aller vers lui et.
Bah, je le vois, je le sens. J'essaie de lutter contre ça, mais à un moment, je te dis, quand je suis fatigué ou ça me saoule, je sais qu'avec lui, il va avoir du réconfort, en fait. Chose que je n'aurais pas forcément avec Laurent. Et je crois que c'est Ben qui disait ça. Enfin, je sais plus comment il a tourné, mais.
Ouais.
Qu'on peut être père pour chaque. Enfin, on est un père pour chaque âge, ou je sais plus comment il avait tourné cette phrase. On n'est pas obligé forcément d'être un bon père sur une telle période, mais sur une autre période, on peut être un bon père, tu vois. Des fois, je me dis ça, bah écoute, à un moment, ça, je vais pas être assuré, mais peut-être plus tard, j'assurerai, tu vois. Je me dis, je vais en profiter avec lui, mais aussi, faut pas que je t'oublie. Mais aussi, ça me fait du bien aussi de sentir qu'il y a une relation avec le petit, tu vois. Plus dans l'affect, parce qu'avec le grand, c'est moins dans l'affect, en fait.
Mais t'as l'air de faire plutôt des activités avec le grand, de cette là,
ouais,
c'est ça?
En fait, je fais toujours des activités avec le grand. Mais le petit, c'est un peu compliqué avec le plus petit, mais je fais quand même, je tiens quand même à faire avec les deux, mais c'est pas de la même façon. Je sais que le grand, il a une sorte de mimétisme avec moi. Tu sais, il joue au basket, il aime le basket, il dessine. Enfin,
Mais donc, il cherche quand même à créer un contact avec toi, quoi.
Il crée des contacts, mais plus maladroitement, en fait, tu vois. C'est pas dans le sens. Enfin, ça, c'est le contact, mais s'il veut montrer un truc, il va être plus dans le frontal que plus la douceur, tu vois. Genre. Ce genre de comportement, en fait.
Est-ce qu'il est un peu comme toi dans ses activités?
Oui, c'est ça.
Ok. Donc ça doit être terrible pour toi.
Oui, c'est ça, en fait. C'est ça, je me dis. En fait, c'est pour ça que je sens que je supporte pas. Je me dis, en fait, je m'aime pas. Donc, c'est une sorte de miroir. Il me renvoie l'image que j'ai de moi, en fait. Tu vois. Mais
c'est voilà. Terrible pour
mais je me dis, avec le côté de ma mère, un peu plus intelligent, moins con que le père, on va dire. Mais voilà. Mais du coup, je sais qu'il est très intelligent, le gamin. Mais c'est ça qui m'énerve. C'est... Parce que par moments, je me disais, putain, mais faut le faire interner, tu vois. J'en étais là par moments. Tu vois, c'est dur ce que je dis, mais par sa réaction, tu vois, quand il pleure, mais pour rien, il va se mettre à pleurer pendant genre 20-30 minutes, il s'arrête pas en fait. Une fois qu'il est lancé, il s'arrête pas. La pression ne redescend pas, tu vois, c'est dur, et ça, je supporte pas en fait. J'arrive pas à gérer ça, de dire détourner son attention, ou je sais pas, c'est. Une fois qu'il est énervé, il est énervé en fait, il n'arrive pas à redescendre.
Et tu te sens un peu en échec de cette là, de pas réussir
voilà,
à.
Je me dis, là, c'est un échec complet, quelque part, j'ai merdé, tu vois. Et c'est tout le temps comme ça en fait. Tout le temps. Et c'est là je me dis putain mais merde j'y arriverai pas en fait c'est genre le truc j'y arriverai pas et c'est voilà et pour en venir je parlais de Verino
ouais
quand j'entendais putain mais merde j'ai envie de trop être un père comme lui en fait tu vois j'ai l'impression à l'entendre c'est le père cool ses enfants ils sont cool ils gèrent bien les trucs c'est l'image que j'ai de lui tu vois c'est il s'énerve jamais ou s'il s'énerve ça va être enfin à la coup tu vois je me dis putain mais merde ça existe des pères comme ça et ça me fait douter en fait je me dis merde tu vois.
Il y a pas de, je crois pas enfin je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise
oui,
façon
oui il y a pas de bonne ou de mauvaise façon mais c'est toujours l'image de
tu fais aussi avec l'enfant que t'as en face de toi
c'est
quoi,
ça
tu vois.
Mais je me dis il y a ton image ou c'est toi qui l'as façonné je me dis bah après ils ont aussi leur caractère c'est sûr mais
attends l'adolescence vieux
bah, c'est ce que je te dis pour moi c'est un adolescent de 8 de 9 ans maintenant ouais. Que j'ai à la maison en fait.
Oui, c'est sûr que s'il y a 8-9 ans, il commence à faire du sarcasme quand tu lui fais à bouffer, quoi, tu vois, c'est là...
Mais je me dis peut-être...
C'est tôt, mec.
Je me dis, soit c'est tôt, et avec les années, en fait, ça va s'annuler. Je me dis, à l'adolescence, il va devenir
c'est pas impossible.
Je me dis ça, mais j'y crois pas trop. Je me dis ça pour me rassurer, mais... Et donc, voilà. Donc là, vous voyez, l'arrivée du 10e, c'est marrant, ils ont 5 ans d'écart, comme moi avec ma sœur.
Ok.
C'est... Bref. Et donc, voilà. Et donc, tous les deux, c'est compliqué.
Ils sont compliqués.
Ouais. Bah, autant ils passent des bons moments, mais comme je te disais, le petit vient toujours vers lui. Enfin, il subit. C'est marrant, Maxence, il subit. Basile, il arrête pas de le taper. Il donne des coups.
Et attends, le grand.
Basile. Le petit
il
tape le grand.
Tape
en fait.
Le grand ouais.
Et donc, le grand, je te dis, qu'il est hypersensible. À peine tu le touches, il va crier, il va être dans un excès. Des fois, tu comprends pas en fait. Oui, il supporte pas qu'il soit à côté de lui. Enfin, ce genre de situation, tu vois, c'est. Et comme je te disais, s'il va avoir ça, il va avoir tant. S'il voit qu'il a ça, il dit « Ah non, moi aussi !» Enfin, c'est tout le temps la comparaison. Et c'est pour tout.
Maxence, vous lui... Enfin, est-ce que d'ailleurs, Maxence, il continue à aller voir une psy
ouais, dire, on a repris, ouais, parce qu'à okay. Un moment, on s'est dit, pendant le confinement, c'était très très dur. Tiens, non, repris, j'ai fini, mais je vais les balancer par le balcon, c'est pas possible, j'en peux plus, tu vois. Ouais. C'est... Ouais, de toute façon, je pense que ça a affecté plein de personnes de façon ce confinement.
Je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pensé et après, faut juste pas passer. Faut trouver
ça
des moyens
jusque
de.
Jusque-là, c'est bon, je peux passer à l'acte, mais t'avoue que j'y pensais. Hein, c'est...
Mais enfin, tant mais... que c'est en pensée, en fait, ouais. Pour moi, si ça te permet de pouvoir redescendre en pression, ou de faire des dessins où t'es en train de déchiqueter tes enfants, écoute, pourquoi pas. Il vaut mieux le dessiner que de le faire.
Donc, ouais. Et donc, j'en étais où déjà ?
On parlait du fait qu'ils.
Oui, ils se fight, voilà. Ils se fight beaucoup. Enfin, bah, après, ouais. Il y a ceux qui rentrent en compte aussi. Je reviens à Maxence, mais il a eu des problèmes de pipi au lit. Jusqu'à maintenant, tu vois. Donc, c'est aussi compliqué, lui.
Mais c'est un peu humiliant pour lui.
Ouais, pour lui. En même temps, nous, ça nous fatigue parce que le matin, tu vois, il se réveille. Faut qu'on change les draps, tout ça. Du coup, ça réveille aussi le petit. Enfin, c'était des moments très compliqués. Donc, sachant que lui, il est assez grand pour son âge. Donc, tu vois, je crois qu'il ne doit pas se sentir bien aussi dans son corps, vu qu'il est grand. Mais en même temps, il est quand même petit. Tu vois, ça joue aussi la dualité, tu vois. Et tout ça, ça joue. Et je me souviens qu'on avait été chez des potes. Il avait été dormir. Enfin, il dormait avec mon pote, il a deux enfants. Donc, tous les trois, ils ont dormi dans la même pièce. Et chaque soir, il a fait pipi au lit, tu vois. Donc je me sentais mal pour lui, je me sentais mal pour moi parce qu'on était invité, donc tous les jours il fallait faire la machine, tu vois. Putain, c'était dur à gérer, tu vois, genre des trucs.
C'est un peu un cercle vicieux aussi, ouais. Hein, le pipi au lit, de toute façon.
Bah après, oui, forcément, c'est pas mécanique, on s'est dit, c'est plus aussi psy.
Ah, c'est, tu vois. De toute façon, ouais. C'est psy. Hein.
Donc voilà, parce qu'on a été voir aussi un spécialiste de ça, et en fait, non, c'était pas dû à ça, mais tu vois, il y a des moments, ça part, ça revient, et je sais que ma copine est très très contrariée là-dessus, c'est un truc que je sais pas, elle supporte pas. Pour elle, vas-y, à un certain âge, t'arrêtes en fait, tu vois. Donc c'est dur à vivre aussi, parce que moi, je suis plus. J'arrive plus à gérer ça, parce que moi, quand j'étais petit, je pissais au lit aussi tardivement, tu vois.
Okay.
Donc ça me touche plus, je me dis, c'est bon, ça va passer, faut pas trop lui mettre la pression, mais tu vois, c'est... on gère les choses différemment, en fait, tu vois. Parce que si je suis en gérer dans un couple, hein, gérer différemment les crises d'un enfant, ça va affecter l'un, mais ça va pas affecter l'autre.
Bah, au contraire, c'est plutôt cool, parce que vous êtes complémentaires.
Ça. Ouais, c'est ce que je me dis, peut-être. Moi aussi, je me dis, attends, des couples où ils pensent de la même façon, ça va être cool.
Mais ça marche, enfin... Ah oui, tu veux dire les couples où tu penses de la même façon? Ouais. Bah non, c'est toujours. Enfin, pour moi, je crois qu'il y a toujours des compromis, de toute façon.
Ouais, je sais ce que je me dis, mais.
C'est comme dans un couple, en fait. C'est les couples qui. Il y a pas beaucoup de couples, je crois, qui sont vraiment hyper alignés sur tout, quoi.
Bah, je crois que j'en connais un ou deux, mais après, okay. C'est ce qu'ils veulent me montrer, après, je sais
pas.
Bah,
c'est toujours, hein. Ouais. C'est jamais ce qui se passe dans les couples.
Donc, ouais, il y a ça. Enfin, il y a tous ces paramètres qui rentrent en compte, tu vois, aussi, par rapport à la relation qu'on a. Et je pense que lui, on se demande si est-ce qu'il est heureux par moment, tu vois. Ce qu'on dirait, c'est qu'il a une sorte de personnage toujours pas content, qui râle. Parce que quand on va à table, par exemple, il arrive, il dit qu'est-ce qu'on mange. Quand tu dis le truc, il dit non, j'aime pas, tu vois, il commence déjà à râler. Donc nous, ça nous énerve, tu vois, on prend du temps à préparer. C'est toujours une relation conflictuelle, en fait. C'est...
Il y a peut-être un truc à jouer, ça a désamorcé, à faire de l'humour, quoi.
Mais c'est ce qu'on dit, c'est après, c'est une fois ça va, deux fois ça va, mais au bout de la troisième, quatrième fois, t'en as marre, tu vois, tu lâches. Et je crois que ça a switché aussi le jour où j'ai vu que ma copine en avait marre parce qu'à un moment elle prenait aussi sur elle, c'est pas elle arrivait à gérer, mais vers les 5-6 ans, pendant un été en Corse, il était juste infect, tu vois, et ça se ressentait par rapport aux grands-parents qui voyaient ça, les oncles qui voyaient ça, enfin les frères de ma soeur qui voyaient, les frères de ma copine qui voyaient ça, donc je t'ai dit putain merde. Son comportement, c'est pas ça te déteint, tu vois, les grands-parents qu'on en marre, qu'ils pointent toujours du doigt lui, tu vois.
C'est un cercle vicieux, quoi.
Ouais. Et ce qui est dur aussi, ouais, les frères de ma copine, ils ont des enfants, mais ils sont en bas âge. Donc lui, c'est vraiment le grand. Il y a un écart de genre, 3-4 ans, je dirais. Donc, il y a un écart. Donc, si vraiment il est très grand, soit il se fait chier, tu vois, il est grand, c'est lui qui est censé montrer l'exemple, mais par moment, c'est lui qui se comporte comme, entre guillemets, le bébé, tu vois. Ouais. Je me dis, ça doit être chaud dans sa tête aussi, enfin, gérer tout ça. Et donc, tu vois, c'est ultra compliqué, quoi. À gérer, je me dis d'un côté, on l'accable, en même temps, c'est dur de vivre sa vie, mais en même temps, on essaie de tout faire pour lui. Bon, on n'y arrive pas toujours, hein, forcément, du coup, on est perdu, quoi. Donc, c'est pour ça, on s'est dit, on va revoir un psy, on est perdu, quoi. Donc, et par moments, c'est pour ça, je t'ai dit, c'est la pire chose qui me soit arrivée d'avoir des enfants. Tu t'infliges quelque chose que, entre guillemets, t'aurais pu ne pas t'infliger, tu vois, ouais. Mais après, c'est aussi bénéfique.
Ça t'a fait grandir par plein d'aspects, j'ai l'impression.
Sur plein d'aspects aussi. Puis voir tes enfants grandir.
Imagine si t'étais encore célibataire et que t'étais comme t'étais il y a... C'était quand tu disais 2014
2006 que j'ai rencontré.
Ah ouais, donc 14 ans.
Ouais.
15 ans.
Ouais, je sais pas. Je me la pose pas cette question. Hein. Enfin, ouais, je me la pose pas. Mais après, comme tout couple, tu dis, ouais, ça fait longtemps. Ouais, il y a des hauts et des bas, mais c'est vrai. Je sais pas. Ouais.
En tout cas, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que tu... En fait, en vrai, tu peux avoir des paroles très dures envers tes mômes, quoi, tu vois, en tout cas envers la paternité. Mais j'ai l'impression que tu donnes le meilleur, quoi, tu vois.
Bah, j'essaye, parce que je me dis.
Bah, c'est top.
J'essaye parce que j'ai pas eu de père, en fait. Je me dis. C'est possible, quoi. Je vais raconter aussi à Maxence. Quand j'étais petit, j'avais pas de père. Je vais raconter comment j'avais vécu ça. Donc voilà. Enfin.
Qu'est-ce qu'ils l'ont dit?
Bah, après. Pour l'instant, il capte pas encore tout ça, mais il me pose des questions sur lui. Bah, pour te dire, je sais que tous les ans, avec ma mère, on va au cimetière, justement pour nettoyer la tombe et tout de mon père. Bah, c'est un peu là, je me confie, je lui parle des trucs. Et je sais qu'on avait ramené Maxence une fois ou deux. Et la psy, elle nous avait conseillé. C'était bien aussi pour qu'il ait une sorte de lien avec son grand-père. C'était le seul lien qu'il ait. Donc c'était bien aussi ce moment qu'il partage avec nous, tout ça. Et du coup, je suis pas allé à cause du Covid. Faudrait que j'y aille. Mais c'était mon seul lien que j'ai avec mon père. Et bah, pour l'instant, il saisit pas tout, mais je lui raconte que. C'est moi, j'ai pas vécu tout ça, j'ai pas eu cette chance de partager, je sais pas, juste d'aller au ciné, juste de regarder un truc, tu vois. Donc, j'ai dit, par moment, je suis un peu mon réalisateur, j'ai dit, profite, t'as de la chance, tu vois. J'ai dit, mais en fait, ça marche pas comme ça qu'un enfant qui se construit, tu vois. Parce que je vois trop comme un adulte par moment. J'ai dit, comporte-toi comme ça, comme si, tu vois, je me rends compte que je suis trop dur avec lui, et quand t'es à la table, faut que tu te comportes bien, mange bien, tu vois, il y a des trucs, genre, quand il mâche, tu vois, il mâche avec la bouche ouverte, ça m'énerve, ou. Bah, par moment, j'ai l'impression de castrer, tu vois, dans des trucs de jeu à la con. Genre, s'il veut jouer avec la nourriture avec son frère, regarder, c'est. J'ai des réactions d'adulte, en fait. Alors que je pense que j'ai gardé une âme d'enfant, tu vois, mais en tant
tu
que...
Tu préférerais jouer avec... En vrai, limite, tu t'aimerais bien
en
jouer
fait,
avec
par
eux.
En fait, par moment, je lui ai dit, c'est vis-à-vis de ma copine, je lui ai dit, peut-être qu'il faut que je fasse un peu plus dur, que je montre que... Parce que, en vrai, je pense que je pourrais faire le con avec eux, mais peut-être que je me l'interdis par moment. Parce qu'elle me dit qu'on n'a pas la même relation à l'autorité. Et ma copine, donc je me dis, ça va peut-être décrédibiliser le truc, tu vois.
Mais t'as le droit de jouer avec tes mômes tout en...
Oui, je sais, mais...
Tout en étant autoritaire par plein d'autres
ouais,
aspects.
Ouais, mais si je jouais avec eux, je dirais que je serais aussi con que je pense par moment. Je lâcherais prise, tu vois. Mais
peut-être c'est ça la solution pour, que je pour me renouer aussi. Avec ton fiston. Hein.
Ouais, ce que je me dis, peut-être.
Peut-être qu'il attend que ça de toi, en plus.
Je pense, ouais. Mais ouais... Bah, par rapport à ceux qui sont partis là, ça fait, ils sont partis dimanche et ouais. Je me suis rendu compte en fait, il a fallu ça peut-être que je me rende compte qu'en fait je tiens vraiment à eux. Parce que jusqu'à maintenant je me disais mais en fait je l'aime pas, puis c'est comme ça, je l'aime pas, il m'aime pas, ça fait partie de la vie. Je me dis on n'est pas forcément obligé d'aimer son fils ou d'aimer son père ou sa mère, tu vois. Et je me dis non en fait, et je pense que vraiment je les aime, mais vraiment tu vois. Et ouais je me rends compte, lié à l'absence. Mais bon, c'est... quand ils vont revenir, je vais dire merde, vous faites chier, ça va être pareil qu'avant, tu vois. Mais parce que du coup, on m'envoie des photos d'eux, quand ils font leurs devoirs, des exercices, tout ça, c'est. Je fonds quand je vois les photos, je suis là, merde, ça me manque en fait. Ça me manque. Et pour revenir à Basile, en fait, je pense que peut-être que je compense. Enfin, j'ai l'impression de faire plus de trucs ou de plus profiter de de ces jeunes années qu'avec Maxon, j'ai l'impression de plus faire de trucs, peut-être plus encore plus m'investir qu'avant, je sais pas. J'essaie de profiter vraiment de tous les aspects, parce qu'après ça passe vite, ils grandissent. Et... Disons que moi je suis un père, j'aime bien quand ils sont tout petits. Vraiment, c'est... ils sont tout mignons, avec leur petite voix, ils sont plus malléables, on va dire. Et après, ils commencent à penser demain, mais là ça devient compliqué. Mais
après, en fait, tu vois, tu dis que ton grand il joue au basket et tout. De toute façon, tu iras faire des 1 contre 1 avec lui dans quelques années, quoi.
C'est ce que je me dis, si mes genoux ils tiennent. Mais c'est ce qu'on fait déjà, on a déjà joué ensemble et tout. En plus, j'ai pas forcé pour le coup.
Et bah alors.
Parce que là, pour le coup, c'est un truc aussi, je me posais la question. Moi, j'essaie d'être aussi d'être ouvert et dit, je me dis, s'il veut faire ce qu'il veut, il fera ce qu'il veut, tu vois. Et pareil en termes d'orientation sexuelle, vu que ça rentre en compte, tu vois, vraiment qu'on n'avait pas forcément ces questionnements. Je me dis, j'essaie toujours dans la conversation de dire alors quelle personne t'aime, et dit ça peut être aussi un garçon ou une fille, on essaie vraiment d'introduire ça. Après, je sais pas si on le fait bien, mais.
Bon, en fait, tant que c'est naturel,
tu vois. Ouais, en fait, c'est naturel, tu vois, on essaie de dire aussi, j'essaie vraiment de. On va pas être dans le cliché du ah, c'est comme ça, tu vois, essayer aussi d'évoluer avec les temps, et même moi, je vois. C'est marrant, on essaie de faire attention sur la bouffe, tu vois. Essayer de faire nos trucs nous-mêmes. Enfin, vraiment des. Alors que nous, il dit, ah oh, non, c'est de la merde. Enfin, en gros, il dit, moi, je peux faire les trucs bien industriels et tout. Nous, il dit, non, mais c'est pas bien. Non, pour le coup, non, là, je serais. Il y a deux trucs dans la vie que je veux pas. C'est qu'il aille manger des fast-food et fumer. Ça, je le prendrais très, très mal. Là, pour le coup, ouais, fumer, je. C'est vraiment un truc, voilà. Quand je dis, je vais avoir. Le rôle de la paternité, je me dis putain, faut pas que mon fils fume. Pour moi, ça sera un échec total.
Et si un jour il fume?
Bah, je sais pas comment je vais prendre avant. Parce que c'est un truc. Enfin, faut savoir qu'il y a longtemps, je croyais que mon père était mort d'un cancer des poumons.
Ok.
Alors, en fait, non, c'était un cancer du foie. Donc, du coup, ça m'avait vraiment calmé quand j'ai dit, je me suis dit, mais la clope, c'est vraiment de la merde. Et, enfin, qui est ça ou pas, de toute façon, pour moi,
c'est de la merde, mais après.
Mais je me dis, s'il fume, bah, comment je vais faire? En fait, je sais pas. J'espère pas, parce que je me dis, ça aurait été un échec, parce que sinon, on fume pas, tu vois. On a jamais. Il n'y a personne qui fume autour de lui. Je me dis, merde, en fait, et bah, je vais être méchant ou je sais pas. Je me dis, pour moi, c'est une sorte d'être faible un peu de l'esprit, de me dire de. Enfin, moi, c'est comme ça, quand j'étais petit, je me dis, bah non, je vais pas fumer pour faire comme les autres, tu vois. Je préfère ne pas fumer, être différent et avoir mon propre. Enfin, être moi, quoi, et voilà, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je vivais. Et pour moi, fumer, c'est une sorte de. Enfin, faire comme les autres, quoi, tu vois. Et c'est ce qui m'attriste. Enfin, c'est ce qui m'attriste de voir tous ces jeunes qui fument, ça. Enfin, je comprends pas. Là, je comprends pas, en fait.
Bah, c'est une façon de se construire.
Ouais, mais pour moi, c'est niquer la santé, je comprends pas en fait. C'est pas logique pour moi de dire.
Bah, tu te rends pas compte que tu te niques la santé quand
tu le sais maintenant. Enfin, je veux dire.
Ouais, quand t'as 14 ans, t'es indestructible en vrai.
Ouais, je sais pas. Mais ouais, j'ai ce genre des trucs. Du coup, ouais, pour cette histoire, mon père, il est pas mort d'un cancer de poumon, d'un cancer du foie. Et je crois que c'est un truc. Bah, pas pathologique, mais c'est un truc dans la famille du côté de mon père. Et du coup, ma soeur aussi a vu. Son foie, il fallait surveiller, moi aussi, il fallait surveiller. Du coup, ça m'avait un peu traumatisé, mais vu que mon père il est mort il y avait 38 ans, ce qui est assez jeune. Donc moi, je redoutais d'avoir... À la base, je croyais qu'il était mort plus tard. Donc moi, je redoutais de passer la quarantaine et d'être toujours en vie parce que tu dis, tu veux toujours dépasser l'âge de ton père. Et en fait, là, j'ai appris récemment que, en fait, non, j'avais dépassé depuis 2 ans l'âge de mon père. Donc en gros, ça allait, quoi. Mais j'ai toujours ça dans ma tête. Je me dis, est-ce que je vais atteindre cet âge fatidique, tu vois. Ça trottait aussi dans mon esprit.
Je comprends.
Ce genre de truc.
Bah, c'est sûr que, en ayant perdu ton père si jeune, forcément, ça te...
Donc, ouais. Ouais. Du coup, j'avais peut-être une sale image de mon père par rapport au dire de ma mère, qui n'était pas forcément présent ou qui buvait beaucoup. Alors que quand on en parle avec ma sœur, je me rends compte que, bah, du coup, c'est marrant, ma sœur est plus proche de mon père que de ma mère, en fait. C'était drôle, j'avais jamais eu cette conversation avec ma sœur.
Parce que ta sœur a 5 ans de plus que toi, donc elle est un peu plus connue.
Ouais. Du coup, elle est plus connue. Ouais. Moi, j'ai vraiment aucun souvenir, genre une photo de lui où j'étais avec lui, mais c'est tout. Donc, je te dis, mon seul souvenir, c'est mon deuxième prénom et une vieille gourmette que j'avais pris chez ma mère quand j'étais petit, je mettais au poignet. Parce qu'il y avait le prénom de mon père dessus. C'est le seul lien que j'ai, en fait. Voilà. Je n'en ai aucun autre.
Et c'est dur de cette là de se construire en tant que père quand t'as pas eu de père.
Bah pour moi, j'ai envie de dire, c'est une sorte d'échec pour mes enfants. Mon point de vue me dit, mais j'ai pas eu de père, je sais pas comment je vais. Enfin, apparemment, j'y arrive pas, en fait, à. Je sais pas, avoir une image positive où je me dis, mais comment je vais faire pour parler de relations, tout ça, j'ai jamais vécu en fait. Et je me dis, comment je vais aborder le truc. Par exemple, ma copine a dit, ouais, des trucs de pénis, tu pourrais lui en parler et tout ça. Et j'en parlais avec Maxime, avec ma psy, je me disais, mais c'est pas parce que je suis un mec que je suis obligé d'en parler en fait. Je comprends pas, tu vois, c'est en fait, t'es dans le cliché. Toi aussi, tu peux être très à même de lui parler de certains trucs, tu vois. Elle me dit, ouais, vu que t'es un mec, tu peux en parler. Ben, tu vois, ça me perturbe de. Tu sais, dans ces cas, tu dis, ben voilà. Alors que c'est comme si j'avais une fille, je pourrais trop bien lui parler de relation, tu vois. Enfin, bref, c'est le genre de truc. Enfin, je pense à beaucoup de choses, voilà. Quand tu as pu le voir, j'arrête pas.
Je crois que c'est plus ou moins la conclusion. Ce sera le titre de ton podcast. Yao pense à beaucoup de choses.
Ouais, je pense à beaucoup de choses, voilà.
Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça.
Ben, j'espère que c'est pas été trop brouillon parce que là j'ai l'impression d'avoir été.
Non, franchement, t'as parlé de plein de choses. Alors, je crois qu'il y a plein de sujets dont tu voulais causer et tout, mais c'était cool, hein, vraiment. Quand même.
Merci.
Tu sais que j'ai une dernière question à te poser.
Ouais, c'est.
Si tes deux fistons retrouvent podcast dans 10 ans et qu'ils écoutent, qu'est-ce que t'as envie de leur dire? 18 et 19, 18 et 13.
Alors, il va avoir 4 ans, là, donc ouais, disons 19, plutôt, il a eu 9 ans. Donc 19 et 14. J'ai essayé du mieux possible de vous élever. Et j'espère que je vais pas être. Enfin, si j'ai été dur avec vous, mais j'espère que vous allez quand même un peu me pardonner. Et qu'au fond, je vous aime quand même si je vous traite de tous les noms et que je suis dur avec vous. Et puis voilà. J'ai essayé de faire comme j'ai pu, quoi. Et puis je vous aime, quoi, tout simplement. Et puis voilà. Enfin, après, je sais pas quoi dire de plus. Ouais. Parce que je suis. Pourtant, je la connaissais, ta question. Je me suis dit, je vais la préparer. Non, je sais pas. Je sais pas quoi dire. J'ai essayé du mieux que j'ai pu. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis toujours fier de vous, quoi. Enfin, c'est un peu bateau, mais. Ouais, je crois que. Tout simplement.
C'est pas bateau.
Enfin, ouais, c'est bon.
Merci beaucoup, Yao.
Ben, merci beaucoup à toi.
C'était très cool.
Ben, merci.
Puis bon courage.
Merci.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joel Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en 10 ans. Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundi de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.